Les premières portes étaient en bois,
ouais.
Et puis on pouvait seulement venir mettre le gaz.
Ah oui.
Ils avaient encore des grosses clés pour ouvrir. Mm-hmm. Voilà. Alors je vous laisse.
Oui, alors bah, bienvenue dans cette Venelle qui est la première étape de votre parcours. Donc nous, on est deux membres de l'AJAR, un collectif littéraire de Suisse romande. Et puis, on va vous lire trois histoires dans ces lieux secrets qui seront un peu comme une fresque sur Porrentruy. Chaque année, lorsque le vent d'automne se lève, c'est la même chose. Les odeurs d'égout, pourtant bien présentes le reste du temps, deviennent insupportables. J'essaye de ne pas y penser.
Je me bouche le nez.
Mais rien n'y fait. C'est le dégoût. Un dégoût absolu. Mélange d'urine et de merde, de lait caillé et de purin, pour vous donner une vague idée. Mon père prétend que ces odeurs n'existent que dans mon imagination. Qu'il y a belle lurette que plus personne ne déverse ses ordures.
Épluchure, pot de chambre ou animal mort.
Dans la Venelle. Il ne sait pas de quoi il parle. Moi qui vis là depuis toujours, pile au-dessus de ce goulet juste assez large pour qu'un cochon puisse y retourner,
le saviez-vous ?
J'ai développé une technique.
Un truc.
Une astuce. Allez, je veux bien vous en parler.
Au lever du jour, quand le coq du voisin s'égosille, je me glisse hors de la maison et je traverse la Venelle encore déserte. J'adore ça. Marcher là me donne l'impression d'être l'héroïne d'un film. Une romance italienne en noir et blanc. Je m'arrête à mi-chemin et tends l'oreille pour écouter les hirondelles et les premiers coucous.
Je n'ai jamais été très forte en nom d'oiseaux. Navré, ce ne sont peut-être pas les bons.
Puis je repars et cueille au passage quelques fleurs de géranium, quelques brins de lavande pour en frotter mon foulard rouge. De cette manière, l'odeur m'accompagne jusqu'au lycée.
Malin, non ?
Bon, je fais ça en douce. Il ne faudrait pas que mon père me voie. Mon père est un homme d'un autre temps. Il aime l'hiver, fumer sa vieille pipe devant la cheminée et regarder tomber la neige.
Moi, j'aime l'été. Les robes légères, les petites culottes et les sandales.
Pas étonnant qu'on ne se comprenne pas.
Mon père passe son temps à répéter que je suis une jeune fille frivole. Je n'ai jamais bien compris le sens de ce mot.
Frivole.
Des pensées sales, ça n'existe pas. Pas quand on a 17 ans. C'est un truc de vieux, les pensées sales. Mais pour lui, frivole, ça veut dire mettre des jupes, piquer des géraniums dans ses cheveux, et bien sûr, compter fleurettes aux garçons.
Ah, les garçons.
Je ne suis même pas censée savoir qu'ils existent. Encore moins comment ils sont faits. Mais puisque vous le répéterez à personne, je veux bien vous le dire, je sais tout ce qu'il y a à savoir sur les garçons.
Ne vous méprenez pas, ma curiosité est purement scientifique. Les garçons sont d'excellents sujets d'études. Au début, je m'en suis tenue à la théorie. Dans mon livre de biologie, il y avait 5 dessins en noir et blanc.
Page 117, très schématique.
Il représentait les 5 étapes du développement, du bébé à l'homme mûr, en passant par le petit garçon, l'adolescent et le jeune homme. Tous nus, avec de plus en plus de poils, de plus en plus de muscles, et un sexe qui prend de plus en plus de place. J'aimais beaucoup le dessin de l'homme mûr. Ses épaules rondes, sa posture solide, sa barbe, son regard fier, tourné vers l'avenir. Alors bien sûr, j'ai voulu en avoir le cœur net. Savoir s'ils étaient vraiment comme ça, sous leurs vêtements. Ça n'a pas été difficile de voir un homme nu, ça non. J'en ai même vu plein. Oh, vous aussi, je parie. Il suffit de traîner au bord de la rivière lorsqu'ils se baignent. Il suffit de leur sourire un peu pour qu'ils vous rejoignent dans la forêt. Un pénis, vous m'excuserez, c'est la chose la plus ridicule du monde. Quand c'est mou, ça ressemble à une fleur de courgette.
Fané.
Ou à un limaçon. Mais quand c'est dur, alors là, ils en sont fiers comme des papes de leur bout de chandelle. En analysant mes données, j'ai dû me rendre à l'évidence. Dans la plupart des cas, on est loin de l'homme mûr du livre de biologie. En général, ils sont voûtés.
Ils ont du ventre.
Sont dégarnis.
Et sentent la transpiration.
Et puis, quand ils se mettent à parler, ça gâche tout. Mais je les aime quand même, hein. Je les trouve touchants. De bons sujets d'étude, je vous disais.
Ma mère, elle, dit qu'il faut songer à me trouver un petit ami. Un gars bien avec qui je resterai toute ma vie. Elle compte sur les jeunes hommes de passage, ceux qui louent une chambre dans la maison que nous rénovons.
Vous savez, celle du numéro 11 de la rue Trouillat.
Parmi ses prétendants, il y a beaucoup de représentants de commerce. Un bon parti, selon ma mère. Ils sont dans la région pour vendre ou acheter leur camelote et ont besoin d'un bon lit avec des draps propres et une assiette de soupe ou d'un ragoût fumant. Ma mère leur prépare tout ça et m'envoie comme émissaire l'air de ne pas y toucher. Je ne refuse jamais. Ces messieurs de passage, je les préfère aux garçons pour entre eux. Ce sont des étrangers, ils s'en vont vite. Ils n'ont pas ici d'amis, pas de famille. Ils n'ont rien à raconter. Ils ne s'attachent pas. Ils n'osent rien dire. Parfois, ils écrivent un mot longtemps après. Ils remercient pour le service, l'accueil. Ils disent qu'ils garderont un bon souvenir de leur séjour. Ma mère est contente. Elle ne lit pas entre les lignes. Le dernier locataire en date s'est installé dans la chambre rue Trouillat il y a 2 semaines. C'est moi, bien sûr, qui lui ai fait visiter les lieux. Je n'ai pas tout de suite vu la ressemblance. Ce n'est qu'en descendant de la cave où nous déblayons le vieux puits que ça m'a frappée.
Ce gars est une copie conforme de l'homme mûr de mon manuel de bio.
Promis, juré.
Alors, après des jours d'attente anxieuse, vous imaginez bien que quand, pas plus tard que ce matin, je l'aperçois enfin à l'angle de la rue des Malvoisins, je décide de saisir ma chance. Je ne vais quand même pas laisser filer mon meilleur copain. Je sais que le moyen le plus sûr pour se faire remarquer est de ne rien laisser paraître. Je marche donc sans lui prêter attention et je bifurque à la hauteur de la rue du Temple. L'homme me suit à une distance raisonnable. Le dédale de rue est désert, seul un chat de gouttière miaule, couché au pied d'un panneau qui annonce Euphrée. Je presse le pas, sinon ce n'est pas drôle. Je ne vais pas vous mentir, tout au long de la rue Achille Merguin, je songe au moyen d'attiser la curiosité de ce jeune homme, et peut-être un peu plus. Lorsque je fais mine d'ajuster ma coiffure dans le reflet d'une fenêtre sale, ce n'est que pour lui laisser le temps de me rattraper. Il ne connaît pas la ville, il a l'air perdu.
C'est amusant.
Je suis bien contente de la tournure que prend cette course-poursuite et commence même à chantonner. Les jeunes filles font ça dans les contes. Elles chantent lorsqu'elles se lavent.
Lorsqu'elles vont chercher de l'eau.
Lorsqu'elles cousent.
Ou lorsqu'elles s'endorment pour des milliers d'années.
Elles chantent pour captiver l'esprit des hommes.
Classique, mais efficace.
Alors je fredonne et l'autre se rapproche. De près, il n'est pas spécialement beau, tout suant et plein de crasse. Comme s'il s'était roulé dans la terre ou quelque chose comme ça. Mais il a un charme qui agit sur moi. C'est peut-être la barbe.
Ou le regard fier, tourné vers l'avenir.
Il pourrait être explorateur.
J'aime les explorateurs.
S'il me proposait de quitter Borantruy et de le suivre au bout du monde, je...
Ouais, pas sûr en fait.
Il est près de moi, tout près de moi, et effleure mon foulard rouge.
Là, tous les oiseaux cessent de chanter.
Puis le voilà qui se penche à mon oreille et murmure.
Bonjour.
Alors tout reprend sa place, le ciel et les oiseaux qui semblent soudain chanter à plein volume, les malades.
Le jeune homme se montre maladroit, ça me fait douter. Les jeunes filles en fleurs, ça se fauche parfois. Avec son allure sale, il n'a rien du chevalier servant, tout du bandit de grand chemin. S'il a décidé, je n'arrive pas à dire le mot, décidé de m'étrangler dans cette ruelle, qui le saura ? Les cochons qui courent par ici finiront par me dévorer comme un fruit pourri. Les oiseaux tourneront haut dans le ciel avant de me manger les yeux. Ma mère pleurera toutes les larmes de son corps. Mon père crachera par terre en disant que j'ai toujours été frivole et que je n'ai que ce que je mérite.
En fait, ce n'est pas du tout ce qui se passe.
Non seulement il est maladroit, mais il est timide. Il faut tout lui montrer. C'est moi qui finis par dénouer mon foulard. Je le passe lentement sur mes bras et mes jambes, comme si je faisais ma toilette. Je le tamponne sur ma gorge et mes tempes pour essuyer un peu de sueur, et je le porte à son nez pour qu'il sente ce mélange de lavande et de peau. Je vois déjà comment il va l'effleurer de ses lèvres et me le tendre avec un sourire. À ce moment-là, j'ai encore un peu d'espoir. Ce gars-là a tout l'air d'un romantique. Ce sera œillade langoureuse,
cheval blanc,
château.
Adieu, porantruy, cochon, oiseau tapageur et venelle puant.
Adieu, mon père, adieu, ma mère. Mais l'ingrat commence à se frotter vigoureusement le torse avec mon foulard. Puis les avant-bras, le front couvert de gouttelettes. Et il me le tend. Il me le fourre sous le nez, l'imbécile.
Ça chlingue.
Super, je suis de nouveau tombée sur un gros loup.
Arrive mon père, manquait plus que ça. Il gueule que je devrais être en classe. Quand je roule des yeux, il crie
« Et tu vas en cours dans cette tenue !»
Alors je prends mes jambes à mon cou.
J'ai toujours trouvé cette expression ridicule.
Il ne me suit pas, il est vieux papa, il est né avant 1950. Moi, j'ai 17 ans, je suis libre, je l'emmerde.
L'écrivain explorateur a lui aussi disparu. Ok, donc, crade, coincé, sans fric et lâche en plus. Il va aller loin celui-là.
J'arrive au lycée essoufflée. Je suis vénère, j'ai même pas pris de petit déjeuner et je crève la dalle. That's that, comme on dit en anglais. Bon, j'avoue, j'ai jamais été très forte en anglais, mais je trouve que ça fait assez classe comme expression. Alors je la glisse souvent dans mes rédactions au lycée, surtout vers la fin.
Car oui, on arrive déjà à la fin de mon histoire.
Bon, pleurez pas.
Dans les histoires, ça finit toujours par...
Ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants.
Mais c'est juste des conneries qu'on raconte aux mioches pour les endoctriner.
Bon. Comme la prof voulait qu'il y ait une morale, il faudrait quand même trouver un truc sympa, une sorte de dicton tordu que personne comprend, mais que tout le monde fait semblant de piger quand même. Par exemple...
N'est pris dans ses filets que celui qui veut l'être.
Ou...
Perdant temps vaut mieux que mari absent.
Ou encore...
Porantruy la belle est remplie de cochons.
Je trouverais bien un truc pendant la pause.
Quelqu'un une clope ?
J'ai plus d'argent de poche.